Alors là, ce soir, on va parler de la régularité. Qu'est-ce qu'on trouve dans cette série de chaînes où on augmente le nombre de croisements, hein, on passe de 6 à 10, on augmente de 4 puisqu'on fait 2 fois 2. De 10, on passe à 14 et de 14, ensuite, si on va jusqu'à 9, on va passer à 18 croisements. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des nœuds qui se mettent bien en colonne, comme ça, et qui se correspondent pour un même nombre de croisements par un quart de tour. Alors, qu'est-ce que c'est que ce quart de tour? Voilà. Donc maintenant, j'efface la suite de Fibonacci et je passe au quart de tour. Le quart de tour, c'est ce que je vous ai envoyé par Internet. C'est là-dedans, il y a une série de quarts de tour entre ces quatre nœuds. On va d'abord parler du premier quart de tour entre les deux premiers, qui est exactement du même type que entre les deux chaînes qui sont à 10 croisements. Alors, je vous marque le nombre de croisements. Ici, il y a 6 croisements, ici il y a 10 croisements, ici il y a 14 croisements. Et je vais vous parler de ce quart de tour ici. Pourquoi parler de ce quart de tour? Parce que c'est une régularité, donc c'est pour faire apparaître, disons, une espèce de charpente structurale, régulière, par rapport à laquelle on va raisonner sur les autres objets qui viennent, je vous dis, comme des cheveux sur la soupe, mais peut-être pas. Là aussi, il est possible qu'ils ne viennent pas comme des cheveux tellement quelconques. Peut-être qu'ils viennent d'une manière également régulière, mais qu'on voit moins vite la régularité. Alors parlons d'abord de la régularité. J'efface ça. J'efface les premières étapes du raisonnement dont j'avais parlé l'année dernière, au mois de février, justement, je crois. J'ai parlé de ça au mois de février l'année dernière, mais on va regarder. Voilà. Et passons à ce quart de tour. Ce quart de tour a le mérite d'être quelque chose qui est interprétable en termes graphiques et en termes plastiques. Si vous reprenez les termes dans mon ouvrage 2, j'ai parlé de la présentation graphique, hein, et de la plasticité nodale. Le mouvement nœud, c'est de la plasticité nodale, parce que ça ne se voit pas immédiatement sur la figure, ce n'est pas graphique. Alors que ce que j'ai appelé la présentation graphique, c'est des choses qu'on voit, qu'on peut regarder. Notre question étant, à quel moment on appelle ça lire, hein? À quel moment la présentation graphique, les choses qu'on peut voir, deviennent des choses qu'on lit? Bon. Ça intéresse la psychanalyse. C'est une réflexion quand même qui essaye de développer une théorie de l'écriture et de la lecture, et surtout de la lecture et de l'écriture, qui, la lecture d'abord, et cette lecture, ça intéresse l'analyse pour un problème qui est quand même assez passionnant pour nous, puisque Freud, c'est un champion de la lecture. C'est un champion de l'écriture aussi. Lacan, c'est un champion du monde de la lecture, mais c'est un champion du monde de la tchatch. Il parle, Lacan il parle, la différence entre Freud et Lacan, c'est Freud il écrit 25 volumes, Lacan il fait 27 ou 28 ans de séminaire, parler. Mais tous les deux ils lisent, ils sont des grands lecteurs. Hein. Moi je viens de lire La Maîtrise, je viens de lire l'homme-machine de La Maîtrise au 18e siècle, c'est absolument étonnant. Voilà un médecin, un type qui est passionné par la médecine et le corps, il écrit l'homme-machine, mais son homme-machine c'est un homme phallus. Qu'est-ce qui me fait dire que c'est un homme phallus? C'est un homme qui, son homme-machine, il essaye de le réduire à l'animal avec tout ce qu'il y a d'éthologique et de régularité animale, voyez-vous. Et il dit des choses tout à fait bêtes et certaines fois complètement stupides. Mais par contre, il est profondément opposé à l'âme. Alors, il cherche d'autres instances pour rendre compte de la vie. Bon, lisez l'homme-machine, vous verrez que ce n'est pas du tout une machine. Le livre de La Maîtrise s'appelle L'homme-machine, ça n'a rien de mécanique. C'est au contraire un homme animal-machine. Mais ça, c'était Descartes, l'animal-machine. Et il y a une grande différence entre Descartes et La Maîtrise, parce que La Maîtrise, jamais il ne découvre le sujet. Il ne va jamais produire le cogito. La Maîtrise, il va produire... je vous dis, c'est un homme phallus. Le truc qui l'émerveille, c'est qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que ce qui se passe dans le corps, avec le langage même, les signes, il appelle ça les signes, comme quoi Méchenic a raison de dire que les signes, c'est ruineux. Il dit des bêtises à partir de cette idée de signe, c'est incroyable, mais c'est quand même très intéressant à lire. 18e siècle, hein. Il a été considéré comme un précurseur du matérialisme. On a fait, il y a même le Paul Laurent Assoun a fait une présentation de l'homme-machine ça s'appelle Médiation, la collection Médiation. C'est peut-être introuvable maintenant, vu que les bouquins, ça part à toute allure. Il va falloir le chercher chez un bouquiniste, dans les livres d'occasion. Mais si vous trouvez l'homme-machine de Lametti présenté par Paul Laurent Assoun, il commet une erreur parce qu'il transfère sur Lacan et il décrit justement Lametti comme Descartes. Il confond Descartes et Lametti, Assoun, dans sa présentation. Parce qu'il a bien vu qu'il fallait préciser ce qu'était Descartes par rapport au sujet, comme le fait Canguilhem. Celui qui le fait le mieux, c'est Canguilhem. Hein, c'est pas Guéroux. Milner, il est allé chercher Guéroux. Il a cru que Lacan n'avait rien fait de plus que Guéroux. Et Canguilhem, qui était à côté de lui, c'était son professeur. Et puis Lacan, ils disent tout à fait autre chose à propos de Descartes. Donc l'animal-machine de Descartes, c'est justement comme un monsieur Seton a fait une conférence, Lacan Guilhem reproduit en annexe de son livre Connaissance de la vie, il reproduit la communication de M. Seton, ou Seton, à l'Académie des sciences, qui était à l'époque une académie privée, comme ça, chez M. Machin, les savants se réunissent, et M. Seton leur explique qu'est-ce que c'est que Descartes, que justement Descartes, il a fait un homme animal-machine, parce que justement, ça ne marche pas, pour montrer que ce n'est pas possible. Alors que Lametti, lui, veut montrer que l'homme, son homme-machine, c'est un homme animal-machine, et c'est un homme-machine au sens animal. C'est-à-dire c'est jungien, c'est aristotélicien, c'est kantien, comme je peux le faire remarquer Lacan. Dernière leçon de l'identification. Personne n'a lu ça, mais il dit Aristote, c'est différent de Platon, il prend l'universel pour le dieu Pan. Et ça fascine Kant. Donc Kant, ça donne une toute autre lecture de Kant avec ça. Hein. Kant, il est quoi? Il est aristotélicien, et alors que Platon, lui, il est plutôt du côté de Lévi-Strauss, la pensée sauvage. Voilà, c'est ça la lecture. Quelle est la différence entre l'analogie et la condensation? La lecture, la lisibilité, le fait de lire, le fait qu'il y ait des incorporels, que c'est le sujet qui va introduire la découpe, c'est le sujet qui va introduire la lecture. Mais qu'est-ce que c'est que lire? Donc c'est ça qui nous intéresse dans cette histoire de quart de tour. Parce que ça a un aspect visible, graphique, descriptible, parfaitement descriptible, mais il se trouve que ça correspond à un mouvement nœud. Donc ça prend une valeur plastique. Et même, on peut même en tirer des conséquences, par exemple, c'est que ce quart de tour, du fait que c'est un mouvement nœud, voyez-vous, du fait que je vais vous montrer en quoi c'est un mouvement nœud, ce quart de tour. Ce quart de tour qui est un mouvement nœud, ce quart de tour que j'ai fait faire à trois torsions ici pour les mettre, au lieu de les mettre horizontalement, je les mets verticalement, ce quart de tour, si c'est un mouvement nœud, c'est un mouvement nœud sur deux fils. Donc si c'est un mouvement nœud sur deux fils, c'est pas un nœud borroméen, c'est un Whitehead. Ah tiens, c'est pas borroméen. Donc ça introduit les W, les Whitehead. C'est pour ça que les générateurs des chaînes qui produisent les nœuds propres ne sont pas des borroméen uniquement. Premier point important à préciser, parce que ce sont des borroméens déjà un peu dégradés en Whitehead. Donc nos générateurs sont pas des purs borroméens, c'est des borroméens plus des Whitehead. Mais il n'y a pas d'enlacement dedans. C'est des nœuds, au sens du mouvement nœud. Il n'y a que du mouvement nœud dedans, c'est des ronds libres faits avec du mouvement nœud. Il n'y a pas d'enlacement. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Parce que, est-ce que lire un rêve, c'est la même chose que lire dans le marc de café? Voilà la question. Lacan se fait des plaisanteries là-dessus. Il a raison, il se moque un peu de tout le monde, parce qu'il y a tellement de malins qui pensent qu'ils sont tellement lettrés que la lecture, l'écriture, pour eux, c'est une facilité. Ils oublient la parole. Déjà, parler et écrire, c'est pas pareil. C'est pas preuve. C'est que tout le monde se dit, tiens, il y a une différence dans la psychanalyse entre Freud et Lacan. Mais moi, je dis non, c'est la même. Mais c'est vrai que c'est la même au sens où la langue française, c'est la même si elle est écrite et parlée. Mais c'est deux langues différentes. Donc, il y a deux psychanalyses. Une parlée et une écrite. Mais c'est la même parce que si quelqu'un veut prétendre me dire que ça n'existe pas, ces objets qui sont différents et identiques, hein, et ben il n'a qu'à aller se faire voir, parce que les langues, déjà, ça présente ça. C'est vrai de la libido pour Freud. Freud il dit à Jung, je comprends rien, mon pauvre gars. C'est pas, ce qui n'est pas intéressant, c'est qu'il n'y en ait qu'une, l'intérêt, c'est qu'il y en ait deux. Hein, il dit, il y a nécessairement deux libidos, conférence 26 des conférences d'introduction à la psychanalyse, il y a nécessairement deux libidos, mais c'est peut-être la même. Le brave Jung, comme tout le monde, comme moi-même, comme un con, je plonge là-dedans, je me dis, bon, ben, s'il y en a, si c'est peut-être la même, il n'y en a qu'une. Vive Parménide. Et puis voilà, on se met à glisser vers le dieu Pan. Et c'est là qu'on fait que de le dieu de la nature, l'universel devient le dieu de la nature. Ce qui est le cas de, d'après Lacan, c'est le cas de Kant et de Aristote. Donc il y a beaucoup de monde entre Aristote et Kant. Et encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez, on n'est pas encore sorti du problème des nazis. Parce que, à part Heidegger qui arrive à être nazi sans thèse biologisante, les autres, ils ont des thèses biologisantes. Donc il y a de la confusion dans le vitalisme, comme l'explique très 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 bien. Si vous voulez voir les dangers de cette planche à savonner et à glisser dessus avec beaucoup de savon, là, cette planche, ce toboggan, Lacan nous dit, l'affaire Jung, Freud nous a vaccinés contre ça avec l'affaire Jung. Mais qui l'a vacciné? Hein, lui, peut-être, Freud a vacciné Freud et a vacciné Lacan, mais je ne sais pas si les autres sont encore vaccinés. Moi, je pense que justement, il n'y a pas de garantie. Vous voyez, ils vont devenir... On est en train de devenir nazi démocratique en ce moment en France, et personne ne s'en aperçoit, parce que c'est une nouveauté. Le Pen, c'était le rêve d'Hitler en 1933, vous voyez, son thèse biologisante, prendre le pouvoir par des voies démocratiques pour détruire la démocratie. C'est quel connard, encore plus grossier que, je ne sais pas, les plaisanteries du canard enchaîné. Il enfonce des portes, quoi. Bien sûr qu'on peut détruire la démocratie en étant élu. Se faire élire pour montrer la faiblesse. Churchill, il l'avait dit bien avant lui que c'était très fragile tout ça. Mais le problème n'est pas là, c'est que maintenant on n'est même plus en train de vouloir détruire la démocratie, on va faire le nazisme démocratique. Vous allez voir, référendum démocratique nazi. Et tout le monde vote, et oui. Bon, attendez, vous allez voir. Bon, vous me donnerez des nouvelles, moi je m'en vais en Argentine. Je suis le seul psychanalyste lacanien à immigrer, vous le remarquez. Hein. Ça se voyait, le nazisme qui approchait dans les années 30, ils sont tous partis, les analystes. Hein. Même ça a provoqué dans le macartisme qu'on aille voir les psy. C'est le succès américain de la psychanalyse, d'après Lacan. Les commissions McCarthy ont fait que tout le monde est allé voir comment se dépatouiller avec la psychose. Ils ont tous immigré, les freudiens. Bethlehem, non, on n'a pas immigré. C'est le seul. Les autres, ils ont tous foutu le camp. Ils savaient lire encore. Aujourd'hui, comme plus personne ne sait lire, vous voyez, les mecs, ils sont ce qu'on a appelé les nouveaux réactionnaires, parce qu'ils donnent des boutons aux neveux de Lacan. C'est quand même des nouveaux réactionnaires. Je veux dire, c'est des gens qui sont des kantiens opportunistes qui veulent éviter Lacan. Voilà, tout le monde veut éviter Lacan. Tout le monde veut éviter Lacan parce que tout le monde veut éviter ça, qui est chiant. Je reconnais que c'est chiant. Bon, vous voyez, moi, je me perds dans mes papiers. Bon. Mais n'empêche que si vous y réfléchissez pas, quand Guilhem, il réfléchit, il fait un très très bel article qui s'appelle « Le vitalisme aujourd'hui » et qui, dans « Connaissance de la vie », hein, aspect, non, ça s'appelle, attendez, le vitalisme aujourd'hui, c'est un autre texte que lui, mais aspect du vitalisme, dans « Connaissance de la vie » chez Vrin, lisez ça, si vous voulez avoir une idée des conséquences ségrégatives et nazies de ce qu'on peut tirer du vitalisme et des discours où il y a des mots comme par exemple Hermès, ou il y a des mots latins ou grecs qui sont des mots, chaque vitaliste a son petit objet, mais manque de peau, contrairement à Lacan qui lui apporte la solution, il ne l'appelle pas objet comme en théorie des ensembles, une lettre A ou E, ensemble, A, la lettre A. Dans Krivine, vous avez l'objet petit A, même, dans la théorie axiomatique des ensembles de Krivine. Si vous l'ouvrez, feuilletez les pages, vous allez voir, à la page 5 ou 6, vous allez trouver l'objet A. Bon, donc c'est... Je ne dis pas que Krivine l'a dit d'abord, hein, parce que justement, il s'est paru en 70 seulement, le livre de Krivine. Lacan, il le connaissait par la sœur de Krivine. Hein. Elle s'appelait Marie-Hélène, je pense. Krivine, elle était dans le monde de l'école. Et donc, elle fréquentait surtout Melman, d'ailleurs, qui l'a contrôlé, qui l'a piloté, qui pilote bon, le sous-marin. Mais entre lui et les autres, non. Mais donc là, la sœur de Criville était dans l'école et de toute façon, elle a essayé de se rencontrer Jacqueline Miller et Criville, les anciens élèves de l'école, hein, entre eux. Bon, ben, ça s'est mal passé. Miller, il est parti, il a pris l'enregistreur, il a arraché la bande, la cassette, à l'époque, il y avait encore des cassettes, il n'y avait pas de MP3, il a mis la cassette dans sa poche, il est parti. Parce que Criville, lui, voulait. Ils croient, ces mecs qui font des mathématiques, ils croient qu'ils peuvent inventer tout à partir de rien. Alors, il ferait mieux de dire Freud, et puis s'ils veulent exercer leur talent de mathématicien, ben, en lisant Freud, en faisant des mathématiques, ça peut donner quelque chose. Mais non, mais déjà, on a pris des distances avec Lacan, c'est pas des mathématiques sérieuses. Donc toujours est-il que, tout ça pour vous dire que l'objet A, je ne dis pas du tout que Criville a inventé l'objet A, mais vous trouvez que l'objet A, peut-être c'est le contraire, il a entendu parler par sa sœur du fait que Lacan parlait de l'objet A, et lui, dans son bouquin, quand il parle de l'objet de la théorie des ensembles, tel un ensemble, qu'est-ce qu'il prend comme lettre? C'est A. Alors, vous voyez, en informatique, vous avez A, robust, c'est la négation de A, et dans Criville, théorie des ensembles, vous avez A. Bon. On retrouve ça du côté technique et du côté mathématique, ce qui n'est pas la même chose, hein. C'est très différent. Ça, c'est Peirce, ça vient de Peirce, hein. Avec ça, le rond, c'est la négation, hein, et ça, c'est Criville. Donc, en maths. Bon. Mais ça, avant ça, il y avait Lacan qui avait déjà parlé de l'objet A, parce que il a pris, lui, le A depuis le petit autre, hein, pour l'opposer au grand A, dès le schéma L, donc c'est il y a longtemps. Et dans le schéma L, c'est A' qui est du côté de l'autre et A qui est du côté. Ben, ça doit poser des problèmes de lecture aux débiles, aux idiots, quoi. Comment ça se fait que Lacan appelle A' l'autre et A? Vous vous rendez compte? Bon. Peut-être que A et A' peuvent s'inverser dans la topologie de Lacan, là. Il faudrait voir. Bon. Moi, à mon avis, ça s'inverse tout à fait. Il le dit explicitement dans la chose freudienne. Hein. Il dit qu'il y a quatre objets, A, M et A', M', et puis que ça se réduit à deux A'. Bon, il y a une très belle séquence dans la chose freudienne qui explique d'une manière limpide ce que Lacan a voulu faire par lui-même, expliqué par lui-même dans la lettre volée. Donc ces histoires de lecture, c'est des choses qui sont quand même que nous devons préciser. Qu'est-ce que c'est que lire? Lire, c'est différent de regarder et puis quoi? De reconnaître la reconnaissance des formes. Aujourd'hui, vous avez une mathématique de la reconnaissance des formes. C'est typiquement de la phénoménologie avec une littérature un peu plus sophistiquée. Au lieu de l'écrire en français, ils l'écrivent avec des équations. Mais c'est à peu près l'expérience phénoménologique du... Bon, c'est quoi? C'est des tâches de Rocha? Non, pas tout à fait. C'est plutôt le gestalt. Bon, enfin, c'est pour ça que Lacan, il rejette de son discours le terme de forme. Morphisme, forme, il l'écarte. Parce qu'il ne faut pas confondre gestalt, forme et schéma, forme algébrique. On appelle ça aussi en algèbre forme, c'est embêtant. Ben Lacan, non, il ne l'emploie pas. C'est très indicatif. Il écarte le mot forme, il va parler dans l'éducation, il dit il faut revenir sur cette question du schématisme chez Kant. Vous voyez. Ça, c'est parce que c'est pour Cazirer, le kantien, c'est un risque de glisser dans la magie, dans le jungisme. Hein, il a horreur de la vie Wartburg, Cazirer. Il a dit à Panofsky, arrêtez l'idéographie. Avant l'idéographie, il parlait même d'idéo. Il parlait de... Comment il appelait ça, son livre? Ça s'appelait...
Iconologie.
Comment?
Iconologie.
Iconologie, voilà, avec icône. Iconographie, iconologie. Et il a arrêté. Hein, il a arrêté. Panofsky, il est allé faire de la sociologie aux États-Unis. Dommage. Il était bien parti, c'était pas mal. Il reconnaît qu'il faudrait un matériau iconographique très très élaboré pour que ça ne devienne pas con, que ça ne glisse pas dans la pente savonneuse dont je vous parle. Donc tout le monde peut y glisser dans cette pente savonneuse, c'est même ce qui se passe de nouveau, vous voyez. Moi je vous dis, le nazisme c'est pas fini, même Lacan nous a prévenu, il nous a dit Hitler c'est un précurseur. Hein. Moi je vous dis, dès que je prends l'avion, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand on me donne un plateau en plastoc avec des McDonald's en plastoc, l'emballage, la serviette, la soupe, tout est pareil, ça me fait froid dans le dos parce que je vois bien qu'ils essayent de m'offrir le champagne pour que je gueule pas pendant que je suis dans l'avion parce que peut-être qu'on va aller se casser la gueule un peu plus loin. Bon, c'est-à-dire que les compagnies aériennes commerciales, c'est pas la chambre à gaz obligatoirement au bout, mais ça ressemble. Quoi. Et alors, ils s'exercent, ils ont fait des progrès, ce qui fait que dans le management, c'est ça le management, le conductivisme, toutes les techniques là. C'est très bien pour former une équipe de stewards, hein, ou des cosmonautes qui doivent aller dans le cosmos et appuyer sur des boutons comme ça. Mais c'est très bien les trainings comportementaux, mais il faut quand même que le sujet soit un peu au courant, quand même, comme dit Lacan, hein, des rats dans le labyrinthe. Il faut quand même qu'il sache ce que c'est que Pavlov, Skinner et toutes ces choses-là. Et quand même, quand on vous fait des grands sourires, les hôtesses de l'air, bon, elles ne montent pas plus que les dents. Ouais, ça m'effraie. Mais enfin, bon, elles sont charmantes, les stewards aussi d'ailleurs. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Vous avez l'impression que vous êtes cerné. On est vite, quoi. On veut vous faire rentrer dans un tube en métal sans panique. Bon, il n'y a plus les miradors, les chiens policiers, les bergers allemands, et les mitrailleuses, le barbelé, tout ça. On a rendu ça très soft, mais ça marche pareil. Alors faites attention. Réfléchissez quand même. J'ai vu que les ministres eux-mêmes, là, du caporaliste qui est votre président, le mien aussi d'ailleurs, il paraît qu'il y a un ministre qui vient de faire une déclaration dans le Monde qu'il faut se méfier de la montée du populisme. C'est extraordinaire, un gouvernement entièrement populiste, dirigé par un hyper-populiste, qui dit qu'il faut se méfier du populisme. Vous voyez le degré de confusion auquel on est arrivé du fait de l'opportunisme de ces gens qui veulent se conduire comme des psychanalystes. Ce que je veux dire, c'est les intellectuels depuis 1975 qui ont dit stop, arrêtons de faire étudier Lacan comme nos aînés, là, les cahiers pour l'analyse, on va faire tomber le mur de Berlin. Vous voyez où on en est. Bon. Je ne dis pas que le mur de Berlin, c'est bien, pas du tout. Mais je dis qu'il y a des murs qui se reconstruisent, vous voyez, entre le Mexique et les États-Unis, en Israël, entre la Palestine, les Palestiniens. L'État d'Israël. Donc le problème n'est pas résolu du tout. Et si vous ne vous rendez pas compte que c'est une affaire de lecture, hein, que les deux peuples de la lecture et de l'écriture qui ont été massacrés en masse au XXe siècle, c'est les Juifs et les Japonais, hein, on ne tue pas n'importe qui. Bon. Là, il y a une résistance très très forte. Alors c'est une horreur. Ces histoires de lecture, c'est une horreur. Donc c'est intéressant quand même, même si c'est horrible, même si ça vous emmerde, même si ça emmerde tout le monde, et que... De toute façon, il n'y a que ceux qui peuvent en abuser comme pouvoir de l'écriture quand ils sont au milieu d'autres gens qui ne savent pas bien lire, pas bien écrire. Rappelez-vous l'histoire de Lévi-Strauss avec les Indiens, comment il le raconte, le chef qui veut rattraper son pouvoir, qui fait semblant d'écrire. Ça existe. Bon. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question, qu'est-ce que c'est que la différence entre regarder, voir, reconnaître, hein, dire ça ressemble, c'est pareil, c'est pas pareil, c'est ce qu'on fait en général. Et puis, lire. Et puis, raisonner. Alors, en quoi la raison, en quoi le calcul, parce que calculer et raisonner, on a rapproché ça beaucoup, ces derniers temps, depuis plus d'un siècle. Mais comment est-ce que le raisonnement, la série de Fibonacci, mais les séries, le calcul et les raisonnements, le raisonnement, c'est jamais une série. Comment le diagramme peut-il être un condensé de raisonnement et de calcul? Ça, c'est la théorie des catégories. Comment un schéma... Vous voyez, comment moi, j'ai montré le théorème sur le nom du père là, dans le miroir, dans le narcissisme, grâce à un schéma avec deux lettres, S1 et S2. Bon. Comment un graphique, comment un petit schéma, un graphe, peut être une démonstration, peut être un raisonnement, peut condenser un raisonnement? Eh bien, le quart de tour, c'est un objet d'écriture parce que ce quart de tour, c'est pas seulement un truc graphique. C'est comme dans les mathématiques. Vous savez, vous connaissez tous ces histoires d'écriture dans les mathématiques. Quand on vous dit, pour résoudre une équation comme ça, quand vous avez x plus 2 égale 3, hein, combien vaut x? Bon, on vous dit, vous faites x et puis vous le 2, vous le changez de côté, vous le changez de signe. Ça fait x moins 2. Et puis du coup... Ça fait x égale 1. Bon. Mais quand on vous dit ça, on vous dit, vous voyez, l'enseignement scolaire de l'écriture mathématique, c'est quand même une analogie. C'est on change de côté, on change de signe. Va te faire voir pourquoi on fait ça. Personne n'ose poser la question. Bon. Alors que moi, j'ai pris soin d'expliquer ça dans mon premier livre, la S1, c'est que l'on fait x plus 2 moins 2 égale 3 moins 2. Bon, là aussi, il y a des fables. Il faut raconter des fables. Pourquoi on peut faire ça? Ça serait plus une explication que ça. Bon. Eh bien, parce que là, vous voyez, on vous dit c'est la même chose, le signe égal est toujours respecté parce que c'est les deux plateaux de la balance. Alors, on vous fait le coup de la balance. Ça vous convainc vachement que l'égalité, c'est forcément le même poids. Bon. Mais enfin, ça peut marcher analogiquement. N'empêche que le signe égal est respecté en face, si on soustrait, c'est-à-dire on ajoute l'inverse, l'élément symétrique, hein, c'est-à-dire l'opposé des deux côtés, et que là, on a une loi de groupe quand même, c'est que 2 moins 2, c'est l'élément, ça va donner l'élément neutre, ça va donner 0, donc ça, c'est x plus 0, qui est égal à 3 moins 2. Ah voilà, là, il y a une explication qui fait intervenir. Bon. Le fait que l'égalité se maintient si on ajoute moins 2, la même chose des deux côtés, hein, c'est une expérience de cuisinière, c'est la tare. Mais ensuite, il y a quand même une loi de groupe, il y a quand même l'idée d'un élément neutre. Il y a des éléments opposés qui leur définition propre, c'est de s'additionner pour faire 0. Bon. C'est un peu mieux l'algèbre. Vous voyez, l'algèbre, c'est un peu mieux que le calcul pétainiste. Parce que ça, c'était. Ça, l'algèbre comme ça, c'était expliqué dans les années 20 et les années 30. De Centime disait ça. Il disait la réforme des mathématiques modernes dans les années 60, hein, où Liebknecht a dû se bagarrer comme un fou pour faire enseigner la théorie des ensembles, ce qui est en train de disparaître de nouveau. Hein. Pourquoi est-ce que ça a été une bagarre terrible dans les années 60 d'introduire les maths modernes? Parce qu'elles étaient déjà à l'ordre du jour, elles étaient employées par tous les profs, les instituts, dans les lycées, dans les collèges et même dans les écoles primaires, dans les années 20 et 30. Mais nous, on ne peut pas le savoir parce qu'on n'était pas nés. Alors, il faut des vieux messieurs comme De Centime, vous voyez, c'est pour ça que ça vaut le coup d'écouter les anciens. Ils racontent ça. On avait adopté dans les années 30 les mathématiques de Cantor, l'algèbre. Bon. Et puis, c'est Pétain qui a fait disparaître. Vous voyez, Pétain, il savait beaucoup de choses, Pétain. Les caporalistes, c'est toujours comme ça, vous voyez. Hop! Il a dit ça, c'est pas bien, c'est structure, c'est pas beau. Ça, c'est beaucoup mieux, on apprend aux enfants à compter sur les doigts. Hein. Si x plus 2 égale 3, bon, ben, il faut voir comment on va faire. 3, et ben 3, c'est 1 plus 2. Bon, ben, on va regarder ça comme ça. Il y a quelque chose qui s'appelle reconnaître, apparaître, ressembler, et il y a quelque chose qui s'appelle lire. Voilà ce qu'il faut essayer de préciser. Bon, alors ça, vous trouverez ça dans S1, cette explication. Et ensuite, j'explique la même chose avec des lettres de l'algèbre. Ce qui est encore pire, c'est même pas de 2 et de 3, c'est avec le A et B. Alors, X, A et B. Ah tiens, X, A et B. C'est pas pareil quand on veut. C'est des histoires de lecture. Quoi. C'est celui qui lit qui met l'accent. Bon. Alors, regardez. Le mouvement qu'il est question de décrire, il est comme ça. J'ai trois croisements alignés qui sont comme ça. Vous voyez ? Celui-là, il y en a un autre qui arrive ici, hop, et un qui passe là, un troisième croisement. Voilà, j'ai trois croisements. S'agit ces trois-là de les faire tourner d'un quart de tour. Qu'est-ce qui se passe ? Regardez, il se passe que là, maintenant, ils vont être comme ça. Et il y a même quelque chose de pire qu'il va falloir apprendre à lire. C'est qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est inversé dans les trois croisements. Vous voyez ? Puisque quand on rentre là-dedans, on passe au-dessus et là en dessous. Et quand on rentre là-dedans, on passe en dessous et là au-dessus. Donc si on part de ça comme un quart de tour, il y a quelque chose qui s'est inversé. Mais si on parle de ça sans parler du quart de tour, si on fait comme il faut faire d'ailleurs, en disant que ça c'est A et ça c'est A', que ça c'est B et ça c'est B'. Bon, on peut même les appeler, si vous préférez, A, B, C et D. Même. Oh, je suis pas dégueul. Bon. Voilà, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C et ça c'est D. Ben vous verrez que le fil qui part de C et le fil qui part de A, quand ils rentrent dans l'affaire, venant de A, ils passent en dessous, venant de C, ils passent au-dessus. Donc, il n'y a pas eu d'inversion. Mais, il y a eu un quart de tour. Ça dépend comment vous lisez. Si vous lisez, si vous dites c'est le même truc qu'on a fait tourner d'un quart de tour, vous avez raison, il y a quelque chose, il faut faire un quart de tour et une inversion. Pourquoi il faut faire une inversion? Parce que vous devez respecter justement le croisement de A et de C. A et C doivent être dans le même rapport qu'avec B et D, vous voyez. Ce qui vient de B passe au-dessus, ce qui vient de D passe en dessous. Ce qui vient de B passe au-dessus, ce qui vient de D passe en dessous. Bon. Donc, on a apparemment un quart de tour et une inversion. On peut le dire comme ça, si vous voulez. Donc, le diagramme de Terrasson qui permet de faire, d'avoir une écriture plus précise, plus exacte, plus élaborée, qui est un bon instrument de travail. Le diagramme de Terrasson, c'est un cercle. Bon, c'est un cercle topologique, alors vous voyez, je le déforme un peu, il n'a pas l'air d'un cercle. Mais, vous voyez, avec ici un type de point, ici un autre type de point. Je mets des points sans rien dedans, et là je mets des points que j'ai marqués en bleu.